Au début, ce n'était que de grossières copies, mais depuis 6 mois, il faut des experts pour distinguer le vrai du faux.
C'est un mensonge qui nous a beaucoup coûté, mais il n'y avait pas d'autre solution.
Oh, pas cher à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars.
Quand ça pètera, ça fera un scandale épouvantable.
Bonjour à tous, je suis Alison Brabec et vous écoutez le podcast accessible à tous sur le vrai du faux. Dans le premier épisode, on a décelé ensemble qu'une copie ne saute pas forcément aux yeux, mais qu'il existe quand même des moyens pour révéler les vrais défauts et que toutes les copies se valent. Alors c'est parti pour le second round. Un prix bas est forcément un faux. Faux ! Un prix bas et en dessous du marché est généralement un très mauvais signe. Mais ce n'est pas forcément un faux. Il faut juste bien faire attention, surtout sur Internet et les sites sur lesquels vous naviguez. Il y a d'abord les sites frauduleux. Alors eux, ils ne proposent que des faux et c'est facile de les déceler. Car ils ne proposent que des produits iconiques à prix défiant toute concurrence. Ils n'hésitent pas à donner des biographies détaillées des designers et des explications tout aussi intéressantes sur les produits. Surtout, il ne faut pas s'y fier, mais regardez plutôt les matériaux des produits, leur lieu de fabrication, les conditions générales de vente, et oui, il vaut mieux prendre quelques minutes pour bien les lire. Et le numéro de téléphone du service client est souvent absent. Bingo, ce sont des faux. Les sites de petites annonces, qui sont généralement gérés par les vendeurs. Faites bien attention aux photos par exemple, car sur la première photo, le meuble peut être très attractif, alors qu'en réalité, il peut être abîmé, voire très abîmé. Alors là, n'hésitez pas à demander d'autres photos du meuble, les certificats, les factures, les dimensions, etc. Si c'est un vrai, ça peut être une super affaire. Le vendeur veut peut-être vendre très vite, mais le meuble peut être aussi en très mauvais état. Et pour le remettre en état, bonjour les galères, car certaines maisons d'édition ne reprennent pas les meubles, et si vous le reprenez par un artisan, le meuble perdra sa cote. Oui, car les matériaux utilisés ne sont pas ceux du fabricant. Ensuite, il y a les plateformes de vente, comme Vinci par exemple. Faites bien attention aux détails. Par exemple, pour le fauteuil Togo de Lynn Roset, on en trouve sur certains sites qui sont soi-disant « restaurés », et je mets bien les guillemets. Parce qu'en regardant bien, ils ont été restaurés en Pologne. Et on vous racontera tout dans un prochain épisode avec le détail et les secrets. Mais en tous les cas, la restauration en Pologne n'est pas possible pour ce fauteuil. Alors si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à appeler le service client de la plateforme car ce n'est vraiment pas dans leur intérêt de vendre des faux. Cela peut être une erreur dans la vérification. En tous les cas, rassurez-vous, sur Vinci.com, on vérifie toujours ce genre de détails et maintenant ces erreurs sont passées au crible. On ne risque rien à acheter une copie. Bon, évidemment, faux! Les conséquences de cet achat ne sont pas sans risque. On a bien compris que généralement, quand on achète une copie, c'est parce qu'on veut soit un intérieur prestigieux sans en avoir les moyens, soit parce qu'on s'est fait avoir. Eh bien, dans les deux cas, une copie reste une copie, bonne foi ou pas. C'est donc un achat illégal. Alors qu'est-ce qu'on risque ? Alors déjà, si la copie est achetée à l'étranger, elle peut être détruite à la douane et le client n'est pas remboursé, car du côté du fabricant ou du vendeur, ils sont souvent dans des pays qui n'ont pas de règles définies sur ces actes. Donc, le client est perdant. Et de toute façon, même si vous trouvez une solution pour envoyer le produit et vous faire rembourser, en Suisse, le renvoi des copies est interdit. Donc, vous ne reverrez pas votre argent. Même à coup d'avocat, il est toujours presque impossible de se faire rembourser. Alors, vous vous dites, c'est pas grave, chérie, on n'a qu'à le revendre, comme ça, on perdra pas tout notre argent. Que nenni, ne faites pas ça! Ce sera considéré comme du recel. Il est interdit de vendre des copies en Suisse. Ça, c'est un acte condamnable. Si le recel est exclu lorsque le bien est acquis de bonne foi, il est révélé lorsque le bien est revendu. Si votre acheteur porte plainte, au mieux, vous aurez une amende, au pire, une peine de privation de liberté, enfin la prison quoi, selon l'article 160 du Code pénal suisse. Ouch ! La lutte contre la contrefaçon est acharnée. Vrai, les éditeurs sont sans cesse sur le qui-vive et traquent la copie. Ce n'est pas leur métier de base, mais tous doivent y passer. Alors pourquoi ? Imaginez bien vous tout le temps de la recherche et du développement, pour les designers et les maisons d'édition, les essais, les échecs, le temps et l'argent mis sur la table. S'ajoutent ensuite les frais de communication et les investissements réguliers pour les perfectionner. Alors que le copieur, tranquillement, récupère l'argent et donc vole le possible retour sur investissement sur les innovations. Alors, quels sont leurs moyens d'action ? Il y a la veille, la saisie, l'arrêt de la distribution, la destruction des stocks. Avez-vous déjà vu les tracteurs qui roulent sur les montagnes de copies ? C'est impressionnant. Voir des dommages et intérêts. Vous pensez aussi peut-être qu'ils peuvent fermer les sites de contrefaçon. Malheureusement, quand un site se ferme, deux s'ouvrent. Mais les éditeurs ont trouvé d'autres solutions. Ils se réinventent. En collaboration avec les héritiers et les ayants droit et les fondations, ils font évoluer les produits. Ils les perfectionnent avec certains détails, par exemple sur un choix de couleur, ou en explorant des matériaux innovants. Mais encore une fois, cela coûte de l'argent et du temps. L'IPI aussi, donc l'Institut pour la propriété intellectuelle, multiplie les actions en matière de lutte contre la contrefaçon en mettant en place une coopération internationale, en renforçant la législation nationale et en sensibilisant le grand public. L'IPI avait d'ailleurs organisé une exposition sous la forme d'un musée de la contrefaçon l'année dernière tout en étant très ludique. Elle avait montré que la contrefaçon était partout, même dans les médicaments. Alors pour aider cette quête et ce jeu du chat et de la souris, vous avez la solution entre vos mains. N'achetez pas de faux et trouvez des remèdes à l'achat de copies. Vous avez d'ailleurs un épisode dédié, les solutions aux contrefaçons. On vous explique comment avoir un intérieur canon sans contrefaçon. C'était le vrai du faux sur les faux, épisode 2. Voici la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos comptes Instagram, LinkedIn, Facebook. Il pourrait servir à d'autres et ne pas se faire avoir. Ou plus simplement, nous poser des questions dans les commentaires pour les prochains et voir même, si vous êtes très très sympa, des étoiles pour nous motiver à continuer. Allez, à très vite pour un nouvel épisode du Vrai du Faux.